Bon, alors je me présente, je vous dis bonjour d'abord. Je pense, on m'a dit que vous étiez des jeunes enfants du primaire, donc du CP au CM2. Est-ce qu'il y a des CP? Vous levez la main. Est-ce qu'il y a des CE1? Des CE2? Ok. Des CM1? Waouh. Des CM2? Très bien. Donc de CE1 à CM2. Donc moi je me présente, je vous dis bonjour, moi je m'appelle Mireille Rivalan. Je ne vais pas tout de suite vous dire ce que je fais, parce que justement on va essayer de le deviner ensemble. Donc on vous a dit qu'on parlerait de comment on fabrique un livre, et évidemment mon métier a à voir avec ça. Je suppose et je sais en fait qu'en classe, on vous parle beaucoup de livres. Alors je pense qu'on vous parle de livres pour deux raisons. D'une part, parce que ça permet de vous familiariser avec la langue française, parce que dans un livre, on raconte des histoires, mais aussi parce que ça va vous donner du plaisir qu'on vous raconte des histoires, que vous en fabriquiez. Donc, je vais vous... Bah, vous savez, hein, vous avez travaillé normalement sur un objet livre, et j'en ai pas amené parce que je sais ce que vous savez ce que c'est. Moi, je vais vous le décomposer, le livre, aujourd'hui. Mais vous savez qu'il y a une première de couverture avec une image de couverture, le titre est indiqué dessus. Il y a un dos sur lequel on indique à nouveau le nom de l'auteur et le titre. Et il y a une quatrième de couverture sur laquelle on met le début de l'histoire du livre ou le contenu du livre pour que les gens aient envie de le lire, soit le prendre en bibliothèque, soit l'acheter dans la librairie. Donc ça, je suppose que vous le savez. Oui ou non ? Ouais, les enseignants. Bon. Donc ça, vous savez ce que c'est qu'avoir un objet livre dans les mains. Vous savez à quoi ça sert. On va faire un groupe. On va faire deux groupes. Ça va être simple. Il y a la travée ici. Je vais vous appeler les imprimeurs. Donc vous êtes les imprimeurs, d'accord. À droite, on va vous appeler. Ceux qui écrivent les histoires, on les appelle comment? Des historiens? Bon, donc là, je vais avoir mes écrivains, parce qu'un historien nous raconte comment s'est passée l'histoire de nos sociétés. Les écrivains nous racontent des histoires. Donc, j'ai les imprimeurs et j'ai les écrivains. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il faut raconter une histoire. Ça, c'est vous. Et pour avoir un livre dans les mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un micro qui traverse les rangs ou est-ce que celui qui, ou celle qui parle crie très fort? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous n'avez pas de micro? Je regarde, ça court. Heureusement que nos collègues de la technique sont là.
Je vais le confier à quelqu'un, comme ça un de ce côté-là.
Alors, il y a un micro du côté des imprimeurs. Qui peut me dire ce qui se passe chez un imprimeur?
Il imprime les histoires.
Oui. Alors, pour imprimer, il faut faire des choses matérielles. Sur quoi il imprime?
Sur du papier.
Sur du
papier.
Voilà, donc il faut du papier, il faut...
De l'encre.
De l'encre. Alors je vais vous faire voir ce que ça donne avec de l'encre et du papier. Je cherche le bon. Voilà, quand un imprimeur nous envoie pour vérifier, quand il a fini, il imprime et du papier. Voilà, de l'encre et du papier. Ça ne fait pas un livre. Il manque quelque chose. Voilà, vas-y.
Bah, il faut assembler les pages.
Très bien. Donc on passe effectivement dans des machines où le papier en fait est coupé à la dimension du livre. Et ensuite, il faut encore autre chose.
Bah, fixer la couverture.
Oui, bien vu. Une couverture. Et donc comment on fixe?
Avec de la ficelle.
Eh bien, effectivement, ça peut être cousu. On appelle ça cousu. Donc, c'est avec du fil plutôt qu'avec de la ficelle, parce que la ficelle, c'est gros. Mais effectivement, ça peut être cousu. Et la plupart du temps, maintenant, c'est collé. Hein, donc, pour que vous ayez un livre qui se tienne, hein, il faut effectivement de la colle ou du fil pour coudre ce qu'on appelle les cahiers. Hein. Donc, je vais rentrer juste dans une petite précision. On a bien compris, effectivement, que chez l'imprimeur, il faut du papier. Alors, ce papier se présente sous forme d'immenses feuilles, parce que c'est énorme, une imprimerie. Ce sont d'immenses machines qui peuvent sortir des livres, peut-être 3000 en une demi-heure. Donc, il y a du calage de machines avec d'immenses feuilles sur lesquelles le texte, effectivement, a été, le mot technique, s'est imposé. Et ces feuilles sont, alors les machines font ça en série, hein. Il y a la coupe. Effectivement, ils rassemblent les feuilles, comme des fois sur certaines photocopieuses trieuses, hein, tac, tac, tac. Et ensuite, elles passent à la colleuse, il y a avec l'assemblage de la couverture. Et en quelques minutes, hein, ça c'est un jour, mais vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez l'occasion d'aller chez un imprimeur, c'est fascinant. C'est très troublant, mais c'est fascinant, parce que une fois que la première planche est passée, ils ont un rythme de machine étonnant. Et d'ailleurs, pour les couvertures, oui, je vous ai pu vous en apporter un exemple, la couverture, elles sont effectivement plusieurs par planche. Je ne pouvais pas vous apporter une feuille de papier parce que c'est immense, mais pour vous donner un exemple, elles sont imprimées comme ça, mettons 3 ou 4 000 feuilles, et ensuite coupées, et ensuite, effectivement, collées sur le livre. Donc, grâce à l'imprimeur, on va avoir un livre, un objet que vous allez donc pouvoir trouver en bibliothèque ou en librairie. À l'école, vous les trouvez aussi, mais c'est comme si c'était à la bibliothèque ou à la librairie. Et ensuite, vous allez pouvoir les lire. Là, ici, on a les écrivains. Donc, les écrivains, vous racontez des histoires. Quelle sorte d'histoire on peut raconter dans un livre ?
Raconter des histoires du futur.
Oui, bien sûr. Donc ça s'appelle un roman, par exemple.
Oui.
Hein?
Des BD.
Oui. J'ai d'ailleurs apporté l'intérieur d'un livre de BD.
On peut raconter des contes.
Oui, bien sûr.
Des albums.
Oui, qui va avec un peu avec la BD, bien sûr, mais tu veux dire un album qui soit pas avec des histoires à bulles, hein, comme un conte, ouais.
Des histoires du passé.
Oui, alors cela dit, il y a une chose à laquelle vous ne pensez pas là tout à fait, quand tu dis histoire du passé, ça peut tout aussi bien être un roman, si c'est une histoire du futur ou du passé, ça peut être aussi un documentaire.
On peut aussi raconter des histoires d'aventure.
Exactement. Par exemple, certains d'entre vous ont-ils participé au concours de nouvelles ? Je ne parle qu'aux écrivains, hein, tant pis pour les imprimeurs. Hein. Bon, donc vous avez écrit des histoires. Simplement, comment est-ce que ça pourrait arriver chez un imprimeur, une histoire ? L'histoire que vous écrivez. Est-ce que certains d'entre vous ont une idée ?
Par la poste.
Chez l'imprimeur, directement. Une autre idée, t'as ta camarade à ta gauche.
On peut l'emmener chez l'imprimeur.
Alors, il faut l'emmener chez l'imprimeur, d'accord. Mais, excuse-moi, tu as besoin de combien d'exemplaires ? En fait, l'imprimeur, lui, il va travailler pour produire des milliers de livres, ou quelques centaines au pire. Enfin, ça, c'est en général des milliers de livres. Donc ces livres-là, il faut bien, il faut qu'ils aillent quelque part. Toi, tu n'as pas besoin de 3000 livres pour toi. Eh non. Donc toi, si tu veux un livre pour toi, tu ne vas pas chez l'imprimeur. Tu peux même te le fabriquer toi-même. L'impression artisanale existe. Hein. Tu peux découper tes... Tu vois, au lieu tu vas faire des planches plus petites, tu vas les découper au ciseau, tu peux du coup utiliser le système dont nous a parlé ton camarade, c'est-à-dire le fil, et tu pourras faire un très très beau livre toi-même. Si c'est tout court, tu peux mettre une désagrafe. Voilà. Mais l'imprimeur, lui, il a des grosses machines, il va en sortir des milliers, et il va utiliser des machines qui peuvent coudre à toute vitesse et des espèces de grosses colleuses. Donc, c'est pas cette personne-là que tu vas voir si tu veux que ta histoire devienne un livre. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée ?
On peut l'envoyer en vélo ?
Excuse-moi, je n'ai pas entendu la fin et c'est pas de ta faute, c'est le bruit autour.
On peut l'envoyer en vélo ?
Oui. Mais la question, c'est en fait, est-ce qu'on l'envoie directement chez l'imprimeur ou pas ? Et réfléchissez, je vais vous aider un tout petit peu. Quand vous travaillez, il y a quelqu'un qui veut parler ? Excusez-moi.
C'est l'éditeur qui envoie l'imprimeur.
C'est très bien vu, effectivement. Alors, par contre, on va se demander ce que c'est qu'un éditeur. Tu as une idée de ça ?
C'est celui qui édite.
Oui, non, c'est bien, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre sait ce que c'est qu'un éditeur ? Enfin, elle le sait déjà, elle. Hein.
C'est celui qui illustre.
Qu'est-ce que tu entends par illustrer ?
Faire les images qui représentent le texte.
Oui. Alors, en tout cas, effectivement, si on veut que de l'image soit rajoutée au texte, effectivement, ça va être chez l'éditeur. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Quand vous êtes, effectivement, elle a bien compris la chose, votre camarade, quand vous regardez le livre, hein, on vous a appris qu'il y a le titre, et il y a le nom de l'auteur, le titre, et souvent, en bas, il y a la collection ou le nom de l'éditeur. Donc, effectivement, c'est par un éditeur que passe le texte. Et c'est mon métier. Moi, je suis éditrice. Donc, je fais le lien entre vous, les écrivains, et vous, les imprimeurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, oui, je vais éventuellement dire « Oh, ce serait bien qu'il y ait des images. » Soit à l'intérieur, et bien sûr, la couverture. Mais avant tout ça, effectivement, et ça, toutes vos solutions étaient les bonnes, la poste, le vélo. Ah, il y a une... Il faut partir du principe, effectivement, je me rapproche, mais j'ai des spots dans la figure, donc effectivement, je ne vois pas qui lève la main. Allez-y.
Il faut que l'éditeur il trouve que l'histoire elle soit bonne, et après, il l'envoie à l'imprimerie.
C'est parfait. Oui, effectivement, tout d'abord, nous, on reçoit des textes, et c'est vous, là, du coup, les écrivains qui les envoyez, par la poste, en vélo, même par Internet, maintenant. Hein ? Et dans toutes ces histoires que nous recevons, ou ces documentaires, puisque certains publient des documentaires, nous lisons, et nous choisissons ceux que nous pensons les meilleurs. Une fois que nous avons fait nos choix, nous faisons un travail avec les... Est-ce que quelqu'un imagine, et là les imprimeurs peuvent quand même répondre aussi, est-ce que quelqu'un imagine quel travail on peut faire avec un auteur ?
Illustrateur.
Alors, le travail avec un auteur ou un illustrateur ? Alors, moi, la question que je posais, mais tu vas tâcher d'y répondre, c'était que, effectivement, quand on a choisi un texte, on dit toujours que l'éditeur travaille le texte avec l'auteur. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait avec lui ?
Il corrige le texte ?
Alors, qu'est-ce qu'on corrige dans un texte ?
Les fautes ?
Oui, c'est vrai qu'on préfère des textes sans fautes, mais ça, vous êtes habitués à l'école aussi, je pense. Et c'est important. Vous savez que pour qu'il n'y ait pas de fautes dans un texte, ce n'est pas si facile que ça. Parce que mine de rien, comme on est surtout très concentré sur l'histoire qui est racontée, on ne voit pas toujours toutes les fautes. Donc, il y a plusieurs stades. On lit... On relit. On est des fois 4-5 à relire un texte pour être presque sûr. Toi, tu as quoi comme idée ?
Ben, En fait, ils relient le texte et ils essayent... Enfin, par exemple, s'il trouve un truc qui ne lui plaît pas, l'éditeur, il va demander à l'auteur si on peut le modifier.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça étonne souvent les gens, mais même les auteurs les plus célèbres acceptent vraiment que quand on relit leur texte, si on trouve quelque chose qui pourrait être meilleur, ou une petite faiblesse, ou dire, ou même des fois, ça peut être dans la phrase, ça peut être dans l'histoire, tous les auteurs acceptent volontiers, oui, qu'on leur propose des modifications. On les propose, hein. Jamais on ne les impose. Mais sur un texte, moi, sur les pages blanches que j'imprime, je mets tout un tas de petits signes avec des points d'interrogation tout le temps. Je fais très attention, hein. Et je dis, voilà, peut-être que cette phrase est un petit peu lourde, peut-être que ça a déjà été dit, on n'a pas besoin de le garder, peut-être que cette fin est trop rapide. Et du coup, l'auteur reprend le texte. Il le relit, le modifie. Là, il y a une main qui se lève.
Il peut corriger ses fautes par le dictionnaire.
Exactement. Mais tu sais que moi, je passe mon temps dans le dictionnaire. Parce qu'à force de voir des choses écrites, je ne sais pas pour vos enseignants, et des fois avec plein de fautes, il y a des fois, c'est pas que je ne sais pas, je ne me fais plus confiance jamais. Hein, je ne sais pas si vous avez la hantise du trait d'union comme moi, mais ça fait partie de mes choses. Et puis en plus, la langue évolue. Hein. Hein, je vous fais savoir à tous, parce que vous êtes une génération qui n'aura pas de soucis pour ce mot-là, mais super-héros a perdu son trait d'union. Voilà. Donc quand vous écrivez super-héroïque sans trait d'union pour la première fois, c'est étonnant. Donc effectivement, non seulement le dictionnaire, il faut se rappeler les vieilles règles, mais il y a aussi que le dictionnaire est mis à jour et il faut pouvoir tout le temps vérifier qu'on ne se trompe pas dans une orthographe. Donc effectivement, voilà, je ne sais pas si on peut là tout d'un coup se représenter les choses, mais il y a donc des écrivains, hein, qui ont des idées d'histoire, qui ont des envies d'histoire, qui les écrivent, qui les envoie chez des éditeurs, et nous sommes nombreux, hein, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'éditeurs. Nous faisons ce choix et nous décidons de travailler ce texte. Quand c'est abouti, on le fait lire, souvent à un illustrateur, pour que soit il y ait des illustrations intérieures, soit une couverture, et les deux. Et du coup, effectivement, on remet cette couche de travail-là, hein. Je peux vous faire voir, attendez, il faut que je me recule. Mais les illustrateurs. Les illustrateurs, alors je vais sans doute laisser ça dedans, voilà. Les illustrateurs nous envoient des croquis, souvent. Hein, je les fais tomber, pas dans le même sens. Ils nous disent, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça correspond à l'histoire, avant de les mettre en couleur. Donc là, ce sont des croquis faits à la main. Là, c'était avec une petite touche de bleu, méthode Fusain. Là, je ne sais plus celui que je vous ai amené. Ben, c'est dans la même veine. Je pourrais vous les faire voir un peu plus près à la fin de cette séance. Et quand on a vraiment décidé que ce projet nous convenait, ils mettent la couleur. Une fois qu'on a tout ça, il y a le premier stade de fabrication qui a toujours lieu chez l'éditeur, c'est la mise en page du texte. Parce que là, on vient de parler effectivement d'histoire, de choix, on fait tous ces choix. Mais après, nous, avant d'envoyer chez l'imprimeur, on envoie des fichiers chez l'imprimeur. Tu veux parler ? Tu attends le micro.
Mais c'est qui choisit les titres ?
Alors, très bonne question. Le titre, la plupart du temps, les auteurs ont un titre. Quand ceux qui ont participé au concours de nouvelles, la plupart, vous avez choisi un titre en fonction de votre histoire. Bon. Des fois, le titre, effectivement, est discuté. Alors, si c'est un... C'est surtout très discuté quand il s'agit de traduction, je vous dirais. Parce que, en général, quand quelqu'un écrit son histoire, il se trompe assez peu sur le titre. Je dis bien assez peu souvent. Quand c'est une traduction, le traducteur peut bien comprendre le texte, mais peut très bien ne pas avoir la bonne idée en français pour que ce soit vraiment parlant. à l'oreille du lecteur. Donc je trouve qu'on discute beaucoup plus sur les titres de traduction que sur les titres de romans français. Maintenant, je peux vous donner un exemple, parce qu'il nous a toujours fait beaucoup rire. Un jour, on était en réunion avec un auteur, hein, Monsieur Jean-Marc Ligny, qui a écrit et pour les enfants et pour les adultes, et il présentait à tous, on avait des amis libraires qui étaient là, et il présentait le texte qu'il allait écrire. C'est un texte qui a été publié il y a quelques années, qui parle du réchauffement climatique. Mais évidemment, il parle, c'est un livre adulte, hein, il parle aussi de toute la politique autour et tout ça. Et il nous annonce un titre incroyable à nos yeux et à nos oreilles. Il dit, je vais l'appeler lente, accrochez-vous, hein, lente agonie des prédateurs. Il y a eu un silence, puis après beaucoup de fou rire. C'est-à-dire que, bon, un mot sur deux n'était pas forcément très compréhensible, puis c'était d'un triste, épouvantable. Oui, on a pris un petit moment, et au bout de quelques mois, ça s'appelait AquaTM, Aqua Trademark, ce qui était quand même un tout petit peu plus appétissant comme titre, tu vois. Donc, bon, l'éditeur a dans sa fonction le droit de participer à ça. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que aussi on a une autre fonction, c'est la promotion du livre. C'est-à-dire que c'est écrit, nous l'avons choisi, nous l'avons fait mettre en page, nous avons envoyé la mise en page de la couverture et du texte chez les imprimeurs, mais pendant ce temps-là, chez l'éditeur, il y a une autre partie de l'équipe qui travaille, c'est la promotion pour que les libraires soient au courant que le livre existe, pour que les journalistes soient au courant, pour en faire la publicité. Et donc, effectivement, dans la fabrication d'un livre, on ne pense pas forcément à ça, mais pour que le livre arrive chez les libraires et pour que les gens aient envie de l'acheter, il y a toute une partie de promotion qui est capitale. Alors, c'est les gens qu'on appelle chez les éditeurs des attachés de presse. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Non, personne ne connaît. Ben voilà, c'est vraiment les gens qui, en fait, une fois que le livre a été choisi et travaillé, et en général au moment où il part chez l'imprimeur, contactent les libraires, présentent le livre à des équipes de représentants pour dire, voilà, vous allez pouvoir aller proposer ce livre chez les libraires, ils vont pouvoir passer des commandes. Les bibliothécaires, eux aussi, sont renseignés. Et ensuite, la presse. C'est au dernier moment, les journalistes, hein, pour qu'ils puissent faire des articles pour dire, oui, allez acheter ce livre, il est très bon. Est-ce qu'il y a des questions?
Qui décide de la quatrième couverture?
Oui. Alors, la quatrième de couverture, comme pour le choix du titre, effectivement, l'éditeur est la personne qui a l'autorité pour le faire. Alors, je peux dire comment je fais, moi. Hein. Effectivement, il y a des livres où je... En général, j'écris un texte, je dis à l'auteur, ça dépend des auteurs, est-ce que y a quelque chose qui te... Qu'est-ce que tu vois? Et on met en commun. Mais effectivement, je suis la responsable, par exemple, des livres que j'ai choisis, je suis responsable de leur quatrième. Je me fais parfois aider, parce que c'est important, et quand quelqu'un... Je fais surtout beaucoup relire. Si j'ai une collègue ou un collègue qui a lu le livre, je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu la chance d'avoir des collègues libraires, donc là, ça, c'est magique. Et quand je n'ai pas eu le temps de le faire, des fois, je m'en mords les doigts. Voilà. Il m'est arrivé au moins deux fois d'écrire des quatrièmes de couverture pas très intéressantes. Hein. Et ça, alors là, vu que les imprimeurs en ont tiré 3000, j'ai 3000 exemplaires de livres avec une quatrième pas très intéressante. Et là, je suis un petit peu désolée parce que je suis obligée d'attendre la réimpression pour la modifier. Donc ça, ça me rend vraiment très triste.
Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent pour vous ou est-ce que vous lisez toutes les histoires?
Alors, effectivement, ben ça, c'est vraiment des histoires de grosseur, hein, de maison. Longtemps, pour prendre... Moi, je suis à la tête d'une petite maison d'édition. Hein, on a commencé à 2-3. Maintenant, on est 8-9. Hein. Longtemps, j'ai effectivement moi-même lu. Là, maintenant, je me fais aider. Mais c'est très délicat. C'est très, très délicat. Je vous avouerai que... Alors, je me suis résignée d'abord pour deux raisons. Ça s'empilait tellement que je ne rendais plus réponse aux gens. Et d'abord, je pouvais rater des belles histoires. Et donc, des écrivains et donc des œuvres, ce qui n'est pas une bonne idée. Et j'ai quand même trouvé une personne dans qui j'avais confiance. Parce que ce n'est pas une question de savoir si les gens vont faire leur boulot sérieusement. Plus de gens sérieux que pas sérieux. Le souci, c'était d'avoir quelqu'un où, quand il me dit « ça, c'est pas la peine que tu le lises », je m'en... tout va bien. Et ça, il va falloir que tu le lises très rapidement, sinon d'autres vont le faire à notre place. Enfin, c'est la question de la confiance. Et donc, de la confiance par rapport à l'esprit de la lecture. Donc, effectivement, ce sont... Alors, c'est vrai que je vous ai dit que l'éditeur hein, a plusieurs... il y a la lecture... Il y a la mise en page, il y a la promotion. Oui, beaucoup de gens rêvent d'être lecteurs pour des maisons d'édition. Hein, nous recevons beaucoup de demandes pour ça, par exemple. Parce que les gens se disent, je lis tellement d'histoires, je vais tout de suite... Alors, excusez-moi, je dis toujours entendre. Hein, c'est comme ça, moi j'entends un texte. Quand je le, je lis un texte, je lis une histoire, mais pour savoir si un écrivain me parle... J'emploie toujours le mot « entendre », parce que c'est ça qui fait la différence entre chaque écrivain. Hein, c'est son style, c'est la façon qu'il a de raconter une histoire. Et ça, quand vous lisez à haute voix, vous le savez. Vous reconnaissez les mots, vous allez savoir quel auteur a écrit cette histoire, quand vous entendez les mots. Alors, qui parle le premier ?
Et comment on choisit les illustrateurs ?
Oui. Alors, il y en a certains qu'on connaît déjà. Et quand moi, je lis un texte, je me dis, ah, je pense à cet illustrateur-là. Alors, on prend son téléphone ou un petit courriel et on dit, bonjour, cher ami, j'ai un texte qui te correspond bien. Il va paraître dans quelques mois. J'aurai besoin d'une illustration de couverture pour dans un mois, deux mois, trois mois. Est-ce que tu veux bien le lire ? Est-ce que tu es disponible ? Quand il répond oui, c'est vrai que c'est très soulageant. Mais des fois, ils me répondent non, parce qu'ils sont déjà très pris. Ou aussi, je ne connais pas d'illustrateur ou de tableau, parce que ça peut être aussi des tableaux, hein, qu'on reprend, qui correspondent au livre. À ce moment-là, on a une petite chemise ou un dossier sur l'ordinateur. J'ai les deux encore. Dans lequel, comme on reçoit beaucoup de propositions, en fait, comme on reçoit... des textes en quantité. On reçoit aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui font des études de graphisme et d'illustration maintenant, et à juste titre, ils font voir ce qu'ils font aux éditeurs. Donc ça, c'est archivé. Hein, autant les livres, alors là, je décide au mois ou à la semaine ce qu'on gardera, ce qu'on ne gardera pas, autant les illustrateurs, je les garde précieusement hein, en réserve pour pouvoir, au moindre manque d'idées, retrouver leur dessin pour dire c'est celui-là qu'il faut. Tu as récupéré le micro. Vas-y.
Mais qui décide du titre ?
Alors, le titre du livre ? Oui. Alors, le titre du livre, quand ton camarade a posé la question tout à l'heure, on a dit que c'était essentiellement l'auteur avec l'aide de l'éditeur. Par contre, l'illustrateur intervient parce que lui, en général, va illustrer le titre par l'image, mais souvent écrire le titre aussi. Hein? Et ça, c'est en général nous qui lui demandons. Mais certains sont plus doués que d'autres pour écrire des titres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a parfois des calligraphies très très belles ou des effets très très réussis avec la typographie sur les titres. Et il y a d'autres fois où on fait des choses beaucoup plus classiques. Hein, ça, c'est vraiment... ça a à voir avec le talent de l'illustrateur et aussi avec ce qu'on estime. Là encore, c'est nous qui estimons comment un livre doit être présenté sur sa couverture. Donc, c'est en fonction, en fait, de notre demande.
Est-ce que vous avez déjà édité des livres qui sont devenus célèbres ?
Alors, c'est toujours pareil, la célébrité, c'est difficile à mesurer. En tout cas, des livres qui se vendent en très grande quantité, oui. Maintenant, je peux éventuellement... Par exemple, nous, on fait assez peu de livres pour votre catégorie d'âge. Hein. On en a quelques-uns. On commence surtout à partir du collège. dans les livres que nous publions. Je pense que certains gros lecteurs chez vous seraient tout à fait capables d'en lire d'ailleurs une bonne quantité. Hein. Il n'y a pas d'âge vraiment défini, c'est en fonction de soi. Mais donc, sans doute, est-ce des noms d'auteurs que vous connaissez peu. Mais effectivement, on a ici ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut plusieurs auteurs célèbres pour nous permettre de continuer à lancer des nouveaux auteurs. Donc nous, je vous donne 2-3 noms, mais nos auteurs principaux en français, c'est Monsieur Pierre Bordage, qui lui écrit de la science-fiction et qui a longtemps été, jusqu'à l'année dernière, le président de cette manifestation parce qu'il habite Nantes ou ses environs. Et l'auteur le plus connu étranger, et les ventes sont les plus importantes, mais il est connu en France et connu dans le monde entier. C'est Terry Pratchett qui écrit des séries qui a toute une série, on est rendu au 34e volume, toute une série de fantasy comique, je pourrais dire burlesque, en tout cas avec beaucoup d'humour, dans un monde improbable qui est un disque qui est supporté par 4 éléphants sur le dos d'une tortue. Voilà, tout ça dans le cosmos. Donc, en fait, c'est une série d'aventures avec des personnages, aussi bien des sorciers, des mages. Et c'est assez loufoque, il faut le dire, et c'est un très grand succès. Donc oui, on a cette chance-là d'avoir des gens suffisamment célèbres pour pouvoir, tous les ans, faire sortir des nouveaux auteurs. Parce que c'est ça qui est important pour l'avenir, c'est qu'il y ait de nouveaux auteurs. Est-ce que tu récupères un micro ? Non, ça va, quelqu'un vient derrière toi.
Qu'est-ce que c'est les cosmos ?
Alors, j'ai dit dans le cosmos pour la planète. Le cosmos, c'est l'univers autour de nous dans lequel... C'est le nom pour citer là où se trouvent toutes les planètes. Donc là, quand j'ai parlé de cette planète imaginaire faite comme un disque, c'est imaginaire, hein, posé sur 4 éléphants, posé sur une tortue, c'est dans l'immensité de l'espace, comme la Lune, le Soleil, comme la Terre l'est. Donc le cosmos, c'est le terme un peu littéraire, mais aussi scientifique, pour décrire tout cet ensemble de l'univers où se trouvent les planètes.
Donc le cosmos, c'est le système solaire.
Il n'y a pas que le système solaire. C'est plus vaste encore. Mais bien sûr, oui, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a besoin d'un micro devant le premier rang. Donc, on a besoin du micro des imprimeurs.
Devant.
Comment vérifier les défauts ?
Alors, essentiellement par des relectures qui prennent des formes différentes suivant le moment. Il y a une première lecture qui est « J'ai reçu par la poste le texte ». Je rajoute « ou par Internet hein, » parce que maintenant c'est possible pour nous tous. Première chose, je lis et je décide qu'on va le publier ou pas. C'est une lecture extrêmement rapide, enfin rapide, comme vous lisez, voyez. Il faut que j'ai l'impression que ça me passionne. Quand on a fait le contrat, quand on a décidé de le publier, effectivement commence une première lecture où on va se dire est-ce que l'histoire est suffisamment bien racontée, est-ce qu'on peut l'améliorer. Et là, je fais des propositions en général ou par la discussion, mais déjà, j'écris sur les feuilles. Je fais une impression avec une imprimante à côté de mon ordinateur et je fais des propositions, je renvoie à l'auteur. Ensuite, il me le retourne avec son choix d'amélioration. Et ensuite, en fait, on fait presque tout le temps en lecture visuelle. Il y a des moments où, un petit peu sur l'ordinateur, on va passer un correcteur d'orthographe, mais très rarement. Très rarement, nous, on multiplie encore, dans l'édition, les lectures à la main sur un texte. Une fois que je suis d'accord avec l'auteur, moi, sur la nature de l'histoire, sur l'élégance de l'écriture, j'ai des collègues qui le reprennent et qui vont le relire, certains en ne regardant que l'orthographe, d'autres d'ailleurs en vérifiant si on ne s'est pas trompé, parce que des fois, quand les histoires sont longues, on s'aperçoit qu'on se trompe sur un personnage. Ça, c'est terrible, c'est arrivé. Donc, on fait reparaître un personnage qui est mort au volume précédent. Alors ça, c'est terrible. Donc, il faut quelqu'un qui soit extrêmement neutre. Mais là encore, tout le temps, c'est à la main sur une feuille de papier, parce que on prend nos dictionnaires. Alors, nos dictionnaires sont en partie, certains, on a des bons dictionnaires sur Internet, mais on est encore très dictionnaire papier. Voilà. Donc, c'est des relectures sur le papier. On se fait des tirages et on les relit et on les annote successivement jusqu'au départ imprimeur. Voilà. Par contre, chez l'imprimeur, alors, si quand même l'imprimeur nous renvoie une feuille de contrôle, et des fois, on trouve une petite bêtise encore. Mais normalement, quand c'est parti chez l'imprimeur, c'est fini. Il y a ce qu'on appelle le BAT, le bon à tirer, que nous donnons à l'imprimeur, c'est-à-dire que dernière vérification faite sur son premier tirage, son tirage d'essai, on écrit BAT, bon à tirer, et c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. Si on a fait des erreurs, enfin, s'il y a des choses, quand on relit, on se dit, oh zut, enfin, ça arrive. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, dans une BD. C'était celle-ci, je crois. Je la relis. Ça fait des années qu'on la travaille, on l'a republiée plusieurs fois et tout. C'est très dur à corriger la BD, parce qu'il y a l'image, parce qu'il y a tout ça. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais c'est très dur. Eh bien, en la relisant pour mon plaisir, l'autre soir, je tombe en bas d'une page, cauchemar avec un D. J'étais désespérée. J'ai appelé mon collègue correcteur le lendemain matin. Je lui ai dit, écoute, dès que tu reviens à Nantes, parce qu'il n'habite pas toujours à Nantes, j'ai dit, on va boire un verre ensemble pour se consoler. Parce qu'effectivement, ça, elle nous avait échappé. Vous voyez, on avait été... Voilà. Je regarde l'heure pour pas que vous soyez mis en retard. Voilà. Alors, on a encore... je vais quand même vous poser la question aux enseignants, savoir si c'était sur 3/4 d'heure ou sur 1 heure par rapport à votre emploi du temps.
Moi, j'ai rien eu.
Non, mais savoir ce que vous avez après. Je sais que la scène est prise à 12h30. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y en a parmi... Alors, surtout, prends le micro, parce que les conditions ne sont pas excellentes, mais j'ai en plus une vue assez mauvaise.
Pourquoi vous avez choisi ce métier ?
J'ai choisi d'être éditrice parce que, effectivement, j'aime énormément les romans. Et surtout, j'attache une très grande importance à ce que la culture soit transmise au public. C'est-à-dire, moi, ce dont j'avais le plus envie... c'était de toute façon des métiers qui tournaient autour de l'artistique. Je ne suis moi-même pas du tout une artiste, mais puisqu'on vient d'expliquer qu'il faut toujours des relais de transmission, il faut toujours des courroies, parce qu'effectivement la culture n'arrive pas aux gens, donc les histoires, les films, les concerts, les disques n'arrivent pas aux gens directement. Moi, comme c'est un milieu qui me passionnait, j'ai cherché un métier dans cette branche. Alors, pourquoi l'édition de texte plutôt que l'édition musicale ou, organiser des tournées de concerts, hein. C'est après des histoires de choix d'études, de choix de sentiments de compétences. Donc, comme j'avais fait des études plutôt littéraires, les choses se sont enchaînées. Mais c'est effectivement un désir de... On est des passeurs, nous sommes des transmetteurs de culture. C'est important... d'avoir cette envie-là. Après, je pense qu'il y a certains qui sont écrivains et qui font aussi les métiers d'édition. Mais en tout cas, dans le rôle où je suis moi, et d'autres gens peuvent l'être, même s'ils écrivent par ailleurs, mais à ce rôle-là, on est vraiment le passage entre l'écrivain et le lecteur qui a besoin que nous le choisissions, que nous le fassions imprimer pour qu'un lecteur puisse le trouver dans une librairie. Ou dans une bibliothèque. D'ailleurs, vous fréquentez les bibliothèques ? Qui fréquente la bibliothèque ? Et est-ce qu'il y en a qui vont aussi en librairie ? Oui, donc il y en a un petit peu moins. Vous y allez sans doute avec vos parents en librairie? Et vous trouvez qu'il y a plus de choix où? En bibliothèque ou en librairie? Alors ça, j'attends que le micro circule. Hein. J'ai compris maintenant.
En librairie?
Pourquoi?
En bibliothèque, une bibliothèque, ça peut être petit. Une librairie, c'est quand même grand.
On va demander à ta camarade derrière ce qu'elle en pense, parce que effectivement, elle pourra te repasser le micro si tu veux redire quelque chose.
Eh bien, en librairie, parce que il y a plusieurs exemplaires du même livre, alors qu'en bibliothèque, il n'y a qu'une fois le livre.
D'accord, et on va peut-être en reprendre encore une ou deux réponses, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Qui a le micro? Celui qui a le micro ou celle qui a le micro se fait connaître. Très haut la main avec le micro. Là, il est juste devant, madame.
Ben, c'est mieux en bibliothèque parce que quand on a lu les livres, on peut les ramener et en prendre d'autres. Alors qu'en librairie... Ben...
Mmh. Tu as des camarades derrière?
Ben, ça dépend de la taille de la librairie ou de la bibliothèque.
Oui, c'est vrai. Oui, mais...
Bah, je dirais en bibliothèque parce que généralement en librairie, c'est plus les livres qui sont sortis il n'y a pas longtemps.
Et là, il y a une main derrière. On va prendre encore, qui se lève depuis déjà un moment. Et après, on va faire le point sur toutes ces réponses. Ouais.
Je trouve qu'il y a quand même plus de choix en bibliothèque qu'en librairie. Parce qu'en librairie, il n'y a pas forcément tous les livres de la même collection. Alors qu'en bibliothèque, souvent si.
Et la main rouge tout au fond. Vous lui passez le micro?
En librairie, parce que parfois, on peut avoir plus d'exemplaires de la même collection. Et aussi, parfois, on peut avoir des mangas, des choses comme ça.
Alors, ça dépend de quelle librairie tu vas. Parce qu'effectivement, toutes les librairies n'auront pas les mêmes rayons. Je pense qu'on peut reprendre ce que vos réponses, effectivement, sont toutes exactes à leur façon. Effectivement, dans une librairie... il y a plusieurs exemplaires de chaque livre. C'est normal, le libraire doit pouvoir vendre un exemplaire et en avoir un autre si quelqu'un arrive dans les 5 minutes en disant « je veux tel livre ». Donc effectivement, en librairie. Mais en général, les bibliothèques ont quand même énormément de titres. Simplement, d'ailleurs, ils ne sont pas tous en rayon. Il y a ceux qui sont déjà chez les autres gens, qui les ont déjà empruntés. Et il y a ce qu'ils ont en réserve. Oui, vas-y. Non, il n'y en a pas un qui voulait parler, là, il y a 2 secondes. J'ai cru que tu avais le micro, excuse-moi. Mais donc, effectivement, c'est 2 démarches différentes. Je finis juste ma phrase et je te passe la parole. C'est qu'un libraire, lui, a pour fonction de vendre des livres et du coup de pouvoir proposer en permanence des nouveautés. L'un d'entre vous l'a dit, un libraire se tient au courant de ce que nous, les éditeurs, nous allons publier. Et pour ça, on lui présente nos programmes. Soit avec des catalogues, soit avec des représentants qui passent lui dire « Ah, bonjour monsieur le libraire, j'ai dans mon catalogue La Talente ou Nathan ou Gallimard qui va faire sortir ça, ça vous intéresse certainement. » Donc ils se tiennent au courant des nouveautés. Alors que les bibliothécaires, eux, doivent avoir tous les livres parus depuis tout le temps. Donc c'est une démarche très différente. Vas-y, t'as le micro.
Mais à quoi ça sert de... Il y a des bibliothèques et des librairies. Pourquoi on ne pourrait pas acheter directement les livres?
Dans les bibliothèques? À vous. Exact. Très intéressant. Alors là, actuellement, par exemple, grâce à Internet, on peut avoir le sentiment d'acheter directement les livres. Parce qu'il y a des... En fait, mais ce sont quand même des librairies. Mais on ne se déplace pas. Et on commande le livre... sur Internet, dans une librairie de type Amazon ou Fnac, et on reçoit le livre chez soi. Pourquoi il existe donc à la base des librairies et des bibliothèques? C'est qu'effectivement, on est trop peu de choses par rapport à la publication. Soi-même, il faut bien qu'on aille à un endroit où on nous dise, il faudrait que tu fréquentes à ce moment-là tous les éditeurs et que tu ailles les voir un par un pour leur dire, dites-moi ce que vous avez publié, comme ça je vais faire mon choix. Donc une librairie est un lieu où quelqu'un de professionnel, un libraire, surveille tout ce qui sort chez les éditeurs, les commande et peut vous les proposer, parce que soi-même, on ne peut pas faire... C'est tout simplement une chaîne... Alors, c'est peut-être la chose qu'on n'a pas abordée, là. On a parlé de comment on fabrique un livre. Hein. Mais effectivement, au bout de... Une fois que c'est imprimé, se rentre en compte une chaîne de commercialisation, hein, où, effectivement, le libraire, qui est le professionnel du bout de la chaîne, est censé vous proposer le choix des livres. Les bibliothécaires font la même chose, mais je dirais de façon parallèle, hein, au libraire. C'est-à-dire que lui, c'est un prêt qu'il vous propose, le bibliothécaire, alors que le libraire vous propose de l'acheter. Mais voilà, c'est effectivement la professionnalisation du revendeur qui est nécessaire. Il faut que vous puissiez faire un choix. Je vous en prie.
Mais comment, bah...
Non, il y a monsieur, en fait, il avait commencé à parler, mais on ne l'entendait pas parce qu'il n'a pas le micro, excusez-moi. Alors, c'est vrai que ça rebondit sur la question du jeune homme. Bien sûr que là, il y a une chose, on a parlé des imprimeurs papier, parce que c'est effectivement encore ce qui arrive le plus souvent. Hein, c'est le... Actuellement, le livre papier est le mode de lecture. 98% des lectures se font sur des livres papier. Mais bien sûr qu'avec l'arrivée des liseuses et des tablettes de lecture, le livre numérique, hein, alors donc le livre en fait électronique, hein, on dit le livre numérique, bah oui, commence nous-mêmes, nous en faisons, nous en commercialisons. Et il faut toujours un libraire, mais sans doute que les libraires par Internet vont être les plus efficaces pour ce type de vente. C'est-à-dire qu'il faut toujours un libraire, un endroit où on vous affiche ce qui est sorti. On en revient toujours au même. Vous pouvez aller sur nos sites, bien sûr, comme ce qui revient à aller chez l'éditeur. Il faut recentraliser les offres chez un libraire, mais la question du libraire, de la boutique du libraire se pose. Alors, toi, tu rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as le micro. Et puis après, on prendra à gauche.
Ça demande beaucoup de boulot d'être auteur ou éditeur.
Alors, auteur, je ne le suis pas, donc je ne vais pas répondre à leur place. Moi, quand je travaille avec eux, évidemment, j'ai envie qu'ils travaillent tout le temps. Mais chacun a son rythme, je pense, pour un auteur. Hein. Là, vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. Il y a des auteurs, il y a même des fois des mythes, ce qu'on appelle des mythes, c'est-à-dire des histoires qui font rêver et qui symbolisent une profession, mais ce n'est pas toujours vrai. Les auteurs dormiraient jamais, écriraient la nuit, ils auraient tous un chat et puis ils seraient tous dépressifs. Bon, non, il y a plein d'auteurs très joyeux, qui n'ont pas de chat, qui se mettent à écrire de 9h à 9h le matin, qui s'arrêtent manger avec leur femme ou leurs enfants le midi, qui réécrivent l'après-midi et qui passent une bonne soirée aussi avec leur famille. Cela existe, hein, je vous le promets. Donc je peux mieux parler, là j'ai une jeune fille qui lève, mais je finis juste. Pour être éditeur, oui, il faut. Mais c'est un peu comme instituteur, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand on n'est pas au boulot, on pense boulot. Mais ce n'est pas méchant, hein. Moi je suis ravie. C'est-à-dire, j'aurais peut-être fait autrement prof, instituteur, je crois, de toute façon. Donc, j'aurais pas arrêté de travailler. C'est pareil, ouais. C'est tout le temps. Je ne sais pas si vous avez un micro, madame.
Mais comment...
Oui, je vous en... Vas-y.
Mais comment ceux qui travaillent à la bibliothèque, ils ont les livres?
Eh bien, ils vont voir les libraires. Et les libraires leur proposent, comme à vous, les sélections des nouveautés. Évidemment, ils demandent des fois des livres parus de plus anciennement qui ont été abîmés, qu'ils doivent remplacer. Mais ce sont les libraires.
Mais c'est pas fini. Ah. Et comment les libraires, ils ont les livres ?
Les libraires ont le livre parce qu'ils l'ont commandé. Une fois que c'est parti de chez l'imprimeur, ça part dans des grands entrepôts. Et dans ces entrepôts-là, il y a des gens qui font des paquets de livres qu'ils envoient aux libraires qui les ont commandés. Est-ce que le micro vient jusqu'à madame ?
Excuse-moi, j'avais
oui, je vous en prie.
Une question et une réponse pour le petit garçon ou la petite fille, je ne sais plus, qui disait combien de temps ça prend pour écrire un livre.
Voilà, allez-y.
Alors, pour écrire un livre, moi, comme je suis auteur, je mets environ un an pour écrire un livre. Donc, j'ai ma vie de lycéenne, ce qui va me prendre tout mon temps, mais je sais que je ne vais pas arrêter de penser à mon livre, en fait, pendant l'école. Je vais écrire sur des papiers mes idées, je vais mettre tout ça. Et le soir, je prends mon ordinateur et j'écris. Donc, oui, j'ai un chat.
Non.
Non, mais voilà.
Non, et mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent montré comme tel. C'est l'écrivain bien au chaud chez lui.
Vu que la journée, j'ai ma vie de lycéenne, je ne peux pas écrire la journée, donc j'écris la nuit. Je vais écrire jusqu'à 4 heures du matin, des fois. Et il me faut un an entre 8 mois et 12 mois pour écrire un livre.
Et après, voilà. Vous l'envoyez à l'éditeur ?
Non, parce que moi, c'est en e-book. Donc, c'est pas du tout.
Ce qui revient à une édition, bien sûr. Donc, c'est peut-être plus rapide encore qu'il y a un petit peu de transformation, quand même. Hein. Mais renvoie au travail de l'imprimeur, de toute façon.
Exactement. Ouais. Et moi, j'avais une question.
Oui, je vous en prie.
Dans quelles conditions est-ce qu'un e-book peut devenir un format papier ?
Alors, un e-book lui-même, alors là, on va rentrer dans les choses. Peut-être, ça dépend si vous voulez qu'on en parle techniquement, parce qu'il y a toujours deux pans. Hein. La partie technique, qui est différente entre un e-book et un papier, et autrement, la partie, je dirais, de type contractuel, à savoir, parce qu'on revient à des commercialisations, alors. C'est-à-dire, quel est votre... Le e-book devient un livre papier. Soit vous le renvoyez chez un éditeur pour qu'il le réimprime en papier. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui achète un e-book peut en faire un livre papier lui-même.
Non, je voulais dire, comment est-ce que d'un livre qui va être connu de façon numérique, peut-il être adapté ça peut être par la colonne.
Il faut repartir sur la chaîne dont on vient de parler.
Okay.
Et, du coup, il faut repartir sans doute, tu bien sans doute, par des voies d'édition traditionnel, parce que va se poser le problème du coût à nouveau de l'exemplaire. Et vous faites que 10 exemplaires pour vos proches et vous les faites ou vous-même l'exemplaire. On avait parlé de coudre, mais oui, c'est possible. Ou vous allez chez un imprimeur local à qui vous dites j'ai besoin de 10 exemplaires et voilà. Mais si on veut commencer à avoir un livre commercialisable, il faut qu'il soit en assez grand nombre, il faut qu'il soit défendu dans toutes les librairies pour que les libraires les proposent aux clients et aux bibliothèques. Et du coup, on re-rentre dans la chaîne que nous venons de décrire.
Je vous remercie.
Bon, je pense qu'on arrive en fait à la fin. Il est 28. Hein. Je sais qu'à 12h30 ici se passe la remise du concours de nouvelles. J'ai fait partie du jury, je le dis que maintenant, ou alors je l'avais laissé entendre. Et voilà, il y avait des nouvelles de CM1, CM2, me semble-t-il. Hein. Tu as quelque chose à dire encore ?
Mais si les librairies, elles n'existaient pas, comment les bibliothèques recevraient les livres ?
Ce serait un plus gros travail pour elles, parce qu'il faudrait qu'elles soient obligées, effectivement, de contacter directement les éditeurs. Donc, effectivement, les librairies ne peuvent pas... Parce que c'est des gens qui sélectionnent les livres et qui les choisissent, eux aussi, ne peuvent pas disparaître. Par contre, monsieur derrière toi soulignait qu'avec les livres sur des liseuses, donc en fichiers qu'on télécharge, effectivement, ces fichiers, on n'est pas obligé de se déplacer chez un libraire qui a entreposé des livres pour les avoir. Il suffit de les commander dans des librairies qui sont sur Internet. mais ce soit encore des librairies. Alors là, on pourrait discuter de si c'est des bonnes librairies ou pas, mais là, c'est encore une autre histoire. Hein? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous restez pour le...